Radio Foot International. Annie Gasnier.
Moskva, dobry dien. Bonjour à tous et bienvenue à Moscou. Nous sommes toujours, et où s'est déplacé donc RFI pour être au plus près du cœur de cette 21e Coupe du Monde qui se rapproche du stade Loujniki de Moscou, théâtre de la finale qui se disputera dimanche. Mais qui sera en finale? À 7h encore 4 prétendants et dans quelques heures un premier qualifié. Et un premier déçu, bien sûr. Ce sera dans moins de 3 heures que sera donné le coup d'envoi de ce France-Belgique. Une demi-finale aux enjeux sportifs, évidemment, importants, mais qui touche aussi deux pays voisins, deux pays amis de l'Europe. Ce soir, eh bien, en toute amitié, il faudra cependant vaincre, battre l'autre, l'éliminer. Et donc en découdre, sous le regard des Russes, des invités d'ailleurs dans cette émission, vont vous raconter comment ils vivent cet événement dans leur pays, comment ils y assistent. Dans le studio justement, alors nous avons mis des couleurs aujourd'hui, et c'est un peu normal. Nous avons d'abord un invité belge, parce qu'on est très courtois dans Radio Foot. Pascal Chimé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un confrère de la RTBF.
Oui.
Et vous animez un genre de radio foot international en Belgique.
Oui.
Très populaire.
Qui s'appelle Complètement Foot.
Voilà. On pourra l'écouter aussi en revenant au pays.
Pour vous consoler de la défaite.
Ou pour écouter comment vous traitez votre défaite. Yann Sotti, bonjour.
Bonjour.
Alors vous n'êtes pas journaliste, vous avez le maillot des Bleus parce que vous êtes français, un Français qui vit à Moscou depuis quelques années, c'est ça?
Oui, depuis presque 18 ans. Et voilà, fan de foot et puis fan des Bleus, hein, surtout fier d'être bleu.
Et alors ici à Moscou, vous avez inventé une Yann Zone. Racontez-nous.
Bah, disons qu'on pensait que la fan zone était un petit peu has-been. On s'est dit, tiens, et pourquoi pas la renommer vu que c'est un petit peu l'organisateur, on s'est dit la Yann Zone, ça doit bien passer. Et puis ce soir, on accueille presque 250 Français et même beaucoup de Russes en fait.
Qui ont le cœur qui bat pour les Français.
Ouais, pour supporter la France évidemment.
Alors un petit clin d'œil à tous nos auditeurs de RFI, surtout ceux qui sont très fidèles. Votre papa a été pendant très longtemps quelqu'un d'important sur RFI, Christian Sotti.
Voilà, oui.
Qui s'en souviennent.
Le fils de mon papa, effectivement.
Voilà. Bon, mais ici, vous êtes Yann, voilà, Yann Zone, merci. Mais Christian Sotti, c'était Micro-Méga la science à l'antenne pour beaucoup de nos auditeurs. Il y a aussi, vous le connaissez, vous le lisez surtout, Farid Achache, hein, de la rédaction de RFI. Bonjour, Farid.
Dobry dien, Annie.
Dobry dien.
Kakdila.
Gracho. Voilà, c'est on a bien. Commencé à prendre le russe ici, mais comme Farid, ça fait plus d'un mois qu'il est là, lui, là. Il a beaucoup d'avance sur nous. À vos côtés, deux jolies jeunes filles. Alors, il y a d'abord... Ksenia Tchernovic.
Tchernovic. Bonjour à tous.
Bonjour Ksenia. Oui. Et vous êtes volontaire de la FIFA et vous êtes de ceux qui aident dans les stades.
Oui, tout à fait.
Tous les étrangers.
Spartak et Loujniki.
Voilà, Spartak. Alors dans les deux stades en plus de Moscou. Et puis à vos côtés. Une supportrice russe, n'est-ce pas? On ne peut que le voir et la reconnaître. Maria, je vais vous laisser dire votre nom. Maria
Fakhrudinova, bonjour.
Bonjour. Vous êtes supportrice de Las Bornaya.
Oui, je fais des vidéos 360 sur l'événement autour des Jeux.
Et vous n'êtes pas trop déçue que Las Bornaya ne soit plus là?
Un petit peu déçue, mais je suis fière pour eux.
Ben oui.
Ouais.
Qui allez-vous supporter dans ces demi-finales?
Je vais supporter les bons matchs, mais en tout cas, comme je parle français, je vais quand même, mes favorites seront francophones.
Francophones, ah, elle dit pas tout. Bon, et puis tout à l'heure, il y aura aussi Vladimir Poupkov, qui est un autre volontaire et qui se joindra à nous dans les débats. Radio Foot à Moscou, c'est parti.
Direction la Russie. Pour vivre la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018.
Ruben Van Voorn, merde, on pourrait pas essayer de se parler gentiment juste une fois?
Refais l'accent belge. Et je t'explose ta gueule, t'as compris?
Mais j'ai pas fait l'accent belge.
Alors?
Mais une fois! Mais je te jure que je faisais pas l'accent belge. Non, je fais l'accent belge une fois, oui, ça j'en sais, frère. Mais avant, je ne faisais pas l'accent belge nord de frette.
Vous, les camemberts, vous vous sentez supérieurs, hein?
Mais on est supérieurs.
Radio Foot.
Un petit clin d'œil à nos comédiens, parce qu'on partage beaucoup de choses, n'est-ce pas Pascal? Et aussi, il y a beaucoup de comédiens belges qui sont très connus en France, et notamment Benoît Poelvoorde.
Oui, on rappelle au public qu'il est belge, hein, Benoît Poelvoorde.
Il est belge.
Stromae est belge aussi.
Il y a Cécile de France, il y en a beaucoup, mais là ils nous mettaient en boîte, hein, en appelant les Français les camemberts. En tout cas, France-Belgique, une finale peut-être avant l'heure, on ne sait pas. En tout cas, une seule de ces deux équipes qui ont fait forte impression depuis le début de la compétition disputera la finale dimanche à Moscou et espérera donc toucher le Graal. Le coup d'envoi sera donné tout à l'heure à Saint-Pétersbourg, l'ancienne capitale des Tsars, baignée par les eaux de la mer Baltique. Les supporters français et belges, alors on sait qu'il n'y a pas trop d'Européens, plus de Latino-Américains en Russie, mais ils sont dans le sillon de leur sélection. Et le correspondant de RFI en Russie a rencontré quelques-uns de ses supporters, Daniel Valo, plutôt de joyeux Français, et puis aussi un supporter belge. Écoutons-les.
Je pense que c'est une équipe qui a beaucoup appris de ses erreurs et qui aujourd'hui explose, et il n'y a même pas de surprise parce qu'offensivement il y a Lukaku, il y a De Bruyne, il y a Mertens. Bah, je pense que c'est pas loin du top européen et mondial, quoi.
Moi c'est pas un gros match, c'est un énorme match parce qu'on joue contre nos voisins belges et je le sens vraiment bien puisque depuis deux matchs on joue très bien, on a un très bon jeu, donc je vois une victoire de la France et même pour dire mieux, une victoire de la France contre l'Angleterre en finale. Donc tout est déjà planifié déjà en fait.
Je suis néerlandophone, donc pour moi c'est un peu plutôt les Pays-Bas. Mais je sais que pour tous mes amis francophones en Belgique, c'est vraiment le grand match. Ouais, c'est contre le grand voisin, hein. C'est quelque chose encore en plus.
Alors ici, comme nous avons des Français et des Belges, ils parlent de grands matchs, ils parlent de grands rendez-vous. Yann, comment vous voyez ce match des Bleus et de l'équipe de France ce soir? Est-ce que vous avez des doutes? Est-ce que vous avez peur?
J'ai des doutes. L'équipe de Belgique, enfin, quand même une très très bonne équipe. Et puis ils ont fait leur preuve. Hein, ils ont marqué des magnifiques buts. Donc ce sera pas facile. On passera évidemment, mais ce sera pas facile. Peut-être dans la douleur. En tout cas, je pense que l'équipe de France le mérite, à mon avis.
Pourquoi?
Bah parce que je sais pas. Je pense que la Russie aime beaucoup les Français, et ce serait un joli cadeau que de gagner cette coupe aussi en Russie. Ça, c'est mon amour aussi à la fois et pour la Russie et pour la France.
Pascal Chimé, qu'est-ce que vous pensez-vous de cette rencontre de ce soir? Alors vous avez et le regard belge, mais aussi vous avez un regard d'analyste et de journaliste.
Mais déjà, avant tout, avant de parler de rivalité, ce sera une belle fête pour le football. C'est déjà le truc à retenir. C'est une belle affiche entre deux belles équipes qui ont grandi durant cette compétition. Et ça, faut pas l'oublier. Faut pas que réduire ce match à un derby. Après, c'est clair que...
Ça pimente un peu la chose.
Oui, ça pimente la chose. Surtout qu'il y a, vous savez, ce petit côté un peu, en tout cas, vu de Belgique, ce petit côté condescendant de nos puissants voisins français. Un peu nos cousins plus âgés qui nous mettent une petite tape dans le dos en disant « ça va, gamin ». Et donc en Belgique, voilà, on en a un petit peu assez de se dire, tiens, si la Belgique est en demi-finale, c'est grâce à Thierry Henry, par exemple. On oublierait qu'il y a un sélectionneur, on oublierait aussi qu'il y a des joueurs parmi les meilleurs de cette Coupe du Monde. Donc voilà, pour le supporter belge, c'est clair que ça va au-delà du match de foot, au-delà de la demi-finale de la Coupe du Monde. Après, pour l'analyste que je suis, ben, ça va être une belle propagande pour le football. Et moi, j'ai l'impression, malgré tout, que de par son ADN historique, de son expérience des grandes compétitions, l'équipe de France part avec une longueur d'avance. Mais on a vu dans cette Coupe du Monde que tout est possible.
Farid, alors vous qui avez suivi la compétition depuis le début, vous avez vu jouer la Belgique, vous avez
vu Tunisie, oui.
Jouer aussi évidemment l'équipe de France. Comment vous voyez cette rencontre?
Moi, je suis un petit peu comme les consultants que j'ai interviewés, Alain Girès, Patrice Neveu, qui a été sélectionneur en Afrique de la Mauritanie. Ils me disent tous que c'est du 50-50. Et c'est vrai qu'à quelques heures du coup d'envoi, moi, j'ai du mal à me dire quelle est l'équipe qui va dominer. De toute façon, je pense par contre qu'il va y avoir un match très ouvert, contrairement à ce qu'on a vu précédemment sur certaines rencontres. Là, ça va être un match ouvert parce que les deux vont être obligés de se dévoiler, et les deux sont ces deux équipes offensives, en fait. C'est là que c'est intéressant. Ces deux équipes qui ont aussi un très bon gardien, et ça, je me demande si le gardien, c'est pas la clé de ce match.
Alors Farid quand même va s'intéresser au cas belge puisque ce soir il ira voir le match avec des Belges.
Oui, dans une brasserie belge.
De Moscou.
De Moscou.
En tout cas, entre pays, je le disais, voisins, amis, cet affrontement dans le cadre d'une Coupe du Monde, évidemment, ça sème plutôt l'amusement et les paris. On a beaucoup de reporters qui sont aux frontières et qui interviewent de chaque côté ces fameux transfrontaliers, comme on dit. Mais alors, il y a quelque chose d'amusant, c'est qu'il y a le Tour de France. Et le Tour de France, Français et Belges sont souvent illustrés, n'est-ce pas, Pascal ?
Mais c'est le deuxième sport le plus populaire en Belgique, après le foot, c'est le cyclisme.
Et en c'est plus... pas le premier, plutôt.
Mais c'est vrai qu'on ces dernières années, on a plus eu tendance à briller dans le cyclisme que dans le foot, et même dans l'histoire du sport belge, tout simplement, avec Eddy Merckx notamment.
Contre après, Raymond Poulidor à l'époque.
Voilà. Après, petit clin d'œil, aujourd'hui, c'est un Belge qui est en jaune, donc c'est génial.
Et aujourd'hui, ce matin, puisque c'était la quatrième étape entre la Baule et Sarzeau, en Bretagne, en France, eh bien, on a eu une échappée avec deux Belges et deux Français. Alors, je pense que c'était de connivence avec la FIFA. Et on va écouter Stéphane Lagarde, notre envoyé spécial sur le Tour de France, a fait une petite carte postale comme ça de ce qui se passe autour du Tour de France et autour du ballon rond.
Les maillots jaunes de la Grande Boucle ont un peu de mal à partir, du jamais vu sur les routes du Tour où, comme partout en France, le bleu s'arrache. De quoi transformer le village départ en village des Schtroumpfs. Alain et son petit-fils Lucas, tous les deux en bleu.
Il a le maillot numéro 7, Griezmann.
La casquette, c'est France-Russia.
Pronostic 2-1 pour la France.
La Belgique va gagner. Hein.
Chez les suiveurs du Tour aussi, chacun affiche la couleur.
On a le drapeau belge ici.
Le drapeau noir, jaune et rouge flotte sur le camion de la télévision des confrères flamands de la VRT. Avec 35 coureurs français et 19 belges sur le Tour 2018, forcément, chacun a un peu la tête dans le guidon et dans le ballon.
Je vous dis Eden Hazard ou Antoine Griezmann.
Griezmann.
Moulfrit ou Boeuf Bourguignon ?
Un Moulfrit.
Guillaume Martin, l'un des deux Français de la formation Wanty Group Gobert, souvent chambré par ses coéquipiers.
Le Tour des Flandres.
Mon cœur balance.
A le cœur qui balance, comme la nacelle du signal de France Télévisions, perché tout au bout d'un long bras télescopique jaune qui surplombe la ligne d'arrivée.
53 mètres. Mais là, on est à 45 mètres.
45 mètres de haut ?
45 mètres de haut.
Et tout en haut, un drapeau ?
Bleu, blanc, rouge. Et si j'ai parié avec les Belges que si ils gagnaient, on mettrait le drapeau belge tout le Tour de France.
Le foot avec l'esprit vélo, que le meilleur gagne.
Que le meilleur gagne sur les routes de France et puis évidemment ce soir sur la pelouse.
Annie, juste un petit mot. France-Belgique en cyclisme, il n'y a pas photo, c'est la Belgique.
Oui.
Il faut
ils
le
ont
dire,
eu des Merckx, effectivement, ouais. Alors que...
Et un champion olympique qui est actuellement maillot jaune sur le Tour, hein, Greg Van Avermaet, donc c'est la Belgique sur le vélo.
Bon, alors on verra sur la pelouse, Pascal, si
la
ça
loi
se passe...
La série, peut-être.
Hein. Si ça se passe différemment. Ce qui est amusant, RFI, vous le savez, aimait beaucoup en Afrique, c'est que pour nos auditeurs africains, alors ça c'est l'héritage d'un passé évidemment historique, eh bien il y a un fleuve Congo qui a séparé ou réuni de peuples européens. Et écoutez ce reportage, parce que tout dépend au fleuve Congo de quel côté de la rive on vit.
Dans les bars, stations de bus, salles de jeu et dans les rédactions de certains médias, le cœur de nombreux fans brazzavillois penche pour les Bleus de France.
La France va gagner. Il n'y a pas quelque chose à discuter parce que la Belgique ne vaut rien devant nos défenseurs. Si tu ne crois pas la France va gagner, tu es comme un aveugle.
À mon avis, c'est la France qui va gagner 2-0. Mais parce que j'ai confiance à la France, parce qu'elle joue bien.
Pour de nombreux Quinois, les liens historiques entre la Belgique et la RDC les obligent à soutenir l'équipe nationale de Belgique, les Diables Rouges.
En voyant Lukaku, en voyant Kompany, un autre garçon du Kassai qui est attaquant aussi, Léa. Donc c'est une équipe, on ne peut plus proche un peu de la RDC, puisqu'on voit des ressortissants congolais ou de congolais d'origine.
D'après ma conviction, la Belgique va battre la France. Peut-être même cette coupe-là, ça partira en Belgique.
Voilà pour ce qui est de ce qui se passe en Afrique. Pascal Chimay, justement, il y a des joueurs qui ont des origines, alors anciennes, des fois c'est maintenant, hein, on peut parler de deuxième génération, mais vous avez, vous aussi, dans l'équipe de Belgique, pas mal de joueurs originaires d'Afrique, et on peut penser évidemment à Lukaku.
Oui, vous savez que le contexte politico-social en Belgique est assez compliqué. On oppose souvent les Flamands et les Wallons, les gens du Nord, les gens du Sud. Et puis on a une équipe nationale qui unit. autour d'elle, avec une équipe métissée, un peu à l'instar de la fameuse génération Black-Blanc-Beur de 98. Mmh. On a, par exemple, eh oui, des joueurs d'origine congolaise, les Lukaku, parce qu'il y a Romelu qui est là, son frère qui n'a pas été sélectionné, mais il y a ici aussi Michy Batshuayi, que vous connaissez en France, il a joué à l'Olympique de Marseille. Il y en a d'autres, Vincent Kompany, qui est...
Bon, qui est un peu le grognard de cette équipe,
oui,
en défense.
Oui, notre capitaine, c'est vraiment la figure de proue de cette équipe. Et puis, il y a aussi des jeunes joueurs issus de l'immigration maghrébine également. C'est pas un hasard si Fellaini et Chadli nous ont qualifiés, ils nous ont sauvés face au Japon. Donc, et puis il y a Kevin De Bruyne qui est l'archétype même du flamand, etc. Donc on a vraiment une équipe qui est riche, tout simplement en fait, et pas uniquement au niveau du talent.
Et qui représente quelque chose de la population Farid.
Il faut dire que Lukaku a toujours, évidemment, il y a eu des appels du pied de la RDC, mais Lukaku, lui, il est belge, quoi. Il est belge. Enfin, jamais, il le dit le contraire.
Et il parle flamand aussi.
Il parle
néerlandais, il parle français, je veux dire, c'est vraiment un vrai belge.
Et il parle aussi anglais en zone mixte, quand des Russes ou des Anglais l'interviewent, il parle. C'est quelqu'un quand même de très intelligent, Lukaku, non ?
Oui, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui est précoce, parce qu'à 16 ans, il jouait déjà en première division, c'est un phénomène. Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'il n'a jamais fait l'unanimité en Belgique. Jusqu'avant le début de la Coupe du Monde, peut-être même après le premier ou le deuxième match, il était décrié encore. Parce que beaucoup mettaient le doigt sur ses carences techniques.
Sur son physique, non, on a beaucoup moqué son physique aussi.
Aussi, mais surtout sur son manque de finesse technique. Et là, il est en train de mettre tout le monde d'accord sur cette Coupe du Monde.
Yann Sauty, pour ce qui est de l'équipe de France, Giron s'est un peu habitué à ce métissage, justement. Pascal parlait de ce France 98 avec ce slogan gant Black Blanc Beur. On se retrouve ici, alors on a vu Las Bornaia aussi, qui avait notamment un joueur d'origine brésilienne et tout. Là, pour ce qui est de l'équipe de France, c'est aussi peut-être l'originalité ou la force de cette équipe de France.
Ça reste sa force, hein, de toute façon. Je pense que c'est... On l'a vu en 98 et on le revoit encore même depuis toutes ces années. Je pense que c'est...
Ce mélange.
Évidemment, c'est ce qui se donne sous toute cette harmonie et qui fait que qu'on a une équipe qui est en plus de plus en plus maintenant soudée. Je pense que on a vu ce France-Danemark qui a déplu à nombreux supporters, et quand on finit sur un France Argentine où en plus on a des buts, on a toute une émotion comme ça, et je pense, et d'ailleurs tout le monde l'a souligné,
c'est ce qui a fédéré
c'est ce qui a fédéré
autour du
et
jeu.
C'est ce qui nous permet derrière d'arriver jusqu'à la finale et puis d'aller sûrement beaucoup plus loin, hein.
Ici les supporters de l'équipe de France, ce sont essentiellement des Français, ou vous disiez que ce soir il y aura aussi pas mal de Russes?
Oui, disons, moi je connais bien la communauté française ici, puisque je suis implanté depuis presque 18-19 ans. Et on a, je crois qu'on va avoir, il y a trois zones aujourd'hui. Je pense qu'il y a l'ambassade, il y a une autre zone qui est au sud, plus proche de l'ambassade, et puis il y a Mayan Zone. On sera à peu près 250. Il y a facilement 50 personnes et des Russes qui ont demandé à être parmi les Français parce que. On a une belle image, ils ont vraiment envie de nous supporter. Ils auraient voulu pouvoir supporter leur équipe un peu plus loin. Bon, ça s'est pas fait comme ils le voulaient, mais enfin, ils sont très heureux. Il y a une ambiance qui règne à Moscou qui est exceptionnelle. On n'a jamais vu ça. Je l'ai pas connu en 98 alors que j'étais encore en France. À Moscou, c'est juste incroyable.
Et comment on assiste à un match ici en Russie? On crie, on hurle comme partout ailleurs. Alors, je sais pas si on boit de la bière ou autre chose, mais
c'est
la vodka ici.
C'est très contrôlé. J'avais fait quelques matchs en France. Effectivement, ça faisait un petit peu peur ici en Russie. C'est très contrôlé. Il y a énormément. Alors, on appelle ça des aumônes, enfin des personnes qui gèrent la sécurité. Il n'y a jamais aucun... ça se passe toujours très très bien et on se sent à la fois en sécurité sans qu'il y ait de problème, et on peut se lâcher et prendre beaucoup de plaisir durant notamment les derbies et tous les matchs ici à Moscou. Hein.
Alors on va aller du côté de Saint-Pétersbourg où se trouvent nos envoyés spéciaux qui ce soir seront chargés de relater le match sur l'antenne de RFI. Antoine Grenier est en ligne avec nous. Bonjour Antoine.
Bonjour Annie, bonjour tout le monde.
Alors Antoine, racontez-nous, est-ce qu'il y a une certaine ferveur autour de Saint-Pétersbourg? Tout à l'heure, on entendait quelques supporters rencontrés par Daniel Valot. Est-ce que dans le stade ou autour du stade ou à l'approche de l'enceinte sportive, voire sur la place principale, il y a du monde et de la ferveur? Antoine Grenier, Antoine Grenier, on a juste entendu bonjour pour l'instant, alors on y reviendra tout à l'heure. En tout cas, on va commencer par aborder le côté sportif quand même de ce match pour les joueurs, parce qu'évidemment, entre les Bleus, on va dire, caractérisés par leur jeunesse, voire leur extrême concentration qu'on a noté, et puis des Diables Rouges qui veulent, eux, enfin concrétiser leur incroyable addition de talent et leur potentiel. Pour le capitaine de l'équipe de France, pour Hugo Lloris, eh bien, comme on le disait tout à l'heure et comme vous le disiez Farid, il y a 50% des chances pour chacune des équipes.
Jusqu'à présent, on a été solide défensivement, même si sur le match face à l'Argentine, on a pris 3 buts, on a été plutôt solide dans le jeu. Après, il y a eu des buts incroyables marqués par les Argentins. On a conscience qu'on va affronter une des meilleures équipes offensivement, ils ont beaucoup de qualités, ils en ont également sur le banc. Il faudra être très solide. La réponse sera collective, c'est pas uniquement le gardien et les 4 joueurs. Ce sera vraiment une réponse collective, être le plus structuré possible, discipliné, pour éviter de leur laisser de l'espace, parce qu'ils sont très performants lorsqu'ils ont de l'espace. Ils sont en pleine confiance. Après avoir renversé le Japon, avec un scénario fou, et en ayant battu certainement le favori principal, le Brésil, et je l'ai dit, je le répète, il faudra une grande équipe de France, une très grande équipe de France pour réaliser cet exploit.
Alors il faudra une très grande équipe de France ce soir, c'est ce que disait Hugo Lloris. Farid, évidemment, on connaît les forces en face, donc est-ce que cette équipe de France qu'on a vue finalement grandir au cours de la compétition, on peut pas dire le contraire, on faisait allusion tout à l'heure à ce match contre le Danemark où mais on connaît les raisons tactiques, on va dire, d'une équipe pour avoir peut-être fait l'impasse sur une rencontre, mais comment vous voyez vous le côté français, c'est-à-dire quelle est la force peut-être de cette équipe de France?
Moi je pense que la force de l'équipe de France c'est le mental. Je pense que Didier Deschamps a beaucoup travaillé là-dessus. Il a laissé passer le premier tour, qui n'était pas flamboyant du tout. D'ailleurs, tout le monde s'accorde à dire que le premier tour était...
On a gagné les matchs, mais voilà, effectivement, c'était pas très flamboyant.
Mais on a vu l'équipe de France face à l'Argentine hausser d'un ton, carrément gérer le match face à l'Uruguay. Bon, il n'y avait pas Cavani, d'accord, mais il savait exactement ce qu'il fallait faire. Mmh. Et là, c'est ce qu'on attend. Est-ce que ça va monter d'un cran? Parce que la Belgique, c'est quand même plus fort que l'Uruguay sans Cavani, il faut être honnête. Donc je pense que là, la grande question, c'est est-ce qu'ils vont pouvoir monter d'un cran ou pas?
Encore.
Est-ce qu'ils doivent monter d'un cran? C'est pas possible autrement.
Pascal Chimé, vous, sur l'équipe de France, comment vous voyez cette équipe en tant qu'observateur et surtout en tant que journaliste sportif par rapport à son parcours? Elle a fini première de son groupe et puis effectivement ce qu'on espérait d'elle et qui se concrétise, c'est-à-dire cette montée en puissance pour l'instant.
Mais écoutez,
est-ce qu'elle a tout montré?
Non, elle n'a pas encore tout montré. Je pense qu'elle peut encore, elle a encore une énorme marge de progression, cette équipe belge. Moi, je vois beaucoup de similitudes entre les deux sélections. On a des équipes qui sont beaucoup plus fortes quand elles n'ont pas le ballon. Je veux dire, dans le jeu de transition, dans le jeu de contre, il y a 3 attaquants très rapides
des deux côtés.
Peut-être encore plus rapides côté belge, parce que Giroud n'a pas cette qualité-là, mais il en a d'autres. Mais par contre, ce sont des équipes qui, si elles voient de l'espace, elles savent l'occuper et elles savent faire mal à leur adversaire. Je pense qu'une des clés aujourd'hui, ça va être ça. Après, moi, j'espère surtout ne pas voir un match qui va se décider sur une phase arrêtée, par exemple. Parce que j'ai vraiment envie que ce soit une propagande pour le foot, mais... J'ai quand même l'impression pour le beau foot. Mais j'ai quand même l'impression que la France part avec une petite longueur d'avance de par l'expérience de son sélectionneur et de par tout ce que ce maillot au fait et cette sélection représente dans l'histoire du foot.
Vladimir Poupkov, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc un des volontaires dans les stades. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette affiche entre la France et la Belgique? Comment vous voyez ces deux équipes qui s'affrontent et qu'on dit être finalement de la même force?
Merci Annie. Tout d'abord, je suis ravi d'être là. Merci pour m'inviter. Comment répondre à votre question? Tout d'abord, ce sont toutes les deux équipes, ce sont très forts. Et j'ai regardé toutes les deux les jouer. Je sais pas en fait, c'est 50-50. Je pense puisque ils vont travailler là-dessus. Je pense donc on va voir comment ça se passe le match aujourd'hui.
Vous voyez pas de favoris?
Je sais pas. Je sais pas répondre pour le moment.
Pascal, est-ce que la force de la Belgique, elle l'a puisée dans son fameux match contre le Japon, parce que la Belgique finit première de son groupe, elle gagne le fameux match contre l'Angleterre où on se dit peut-être qu'elle va laisser filer et tout. Non, pas du tout. Ensuite, elle se retrouve face au Japon. On se souvient de ce scénario, 2-0 à la 69e minute. Vous avez pensé qu'il se qualifierait à ce moment-là?
Oui, je pensais que si...
Vous y avez cru quand même?
Oui, je pensais que si la Belgique marquait, elle allait gagner avant les prolongations.
En temps réglementaire, bon. Et puis ensuite, elle élimine, qu'on le veuille ou non, le Brésil de Neymar. Peut-être que Neymar n'était pas lui non plus à son niveau cette fois, mais avec Coutinho et toutes les stars brésiliennes qui étaient un sérieux candidat au titre. Est-ce que c'est là peut-être le tournant pour l'équipe de Belgique?
Au fait, je pense qu'il y a deux tournants dans ce tournoi pour l'équipe. Il y a ce troisième match de la phase de qualification où, contrairement à l'équipe de France, on a joué avec une équipe B, mais cette équipe n'a pas snobé du tout l'adversaire. Il était sans doute plus facile, on le voit au parcours de l'Angleterre, de terminer deuxième. Passer la Colombie, le parcours allait être beaucoup plus facile jusqu'à la demi-finale. Mais les remplaçants ont pris leur chance et ils ont voulu gagner ce match. Et même les titulaires habituels qui étaient sur le banc, l'esprit était le même. Ils voulaient absolument terminer premier avec un 9 sur 9 pour marquer les esprits. Et le parcours se décide vraiment et se dessine dans la difficulté. Le Japon a été fédérateur de par son scénario rocambolesque. Et puis le Brésil, ça a été pour ces joueurs-là comme une nouvelle carte de visite en fait, à montrer au monde en disant ça fait des années que vous nous prenez pour une génération dorée. Eh bien là, on vous a prouvé ce soir qu'on est là et qu'on répond présent.
Moi, il y a juste une question que je me pose, que je vais demander à un autre confrère de la RTBF, c'est est-ce que face au Japon, ils n'ont pas été obligés de se dévoiler tactiquement et peut-être de cacher des choses qu'ils ne voulaient entreprendre face à la France quand ils se sont retrouvés menés comme ça?
Moi, je pense que contre le Japon, le problème était dans la tête. Je pense qu'il y a eu un blocage à un moment psychologique où cette équipe voulait en garder, comme vous le disiez, un peu sous la semelle. Et puis, en face, il y avait un adversaire qui était bien organisé, qui courait beaucoup plus, qui fermait les espaces et qui a su nous faire mal avec deux très beaux buts. Donc là, je pense que les joueurs, à un moment, ils n'ont pas trouvé la clé. Et puis la clé, elle a été trouvée aussi par le sélectionneur, qui a fait monter deux milieux de terrain qui ont résolu le match, quoi.
Donc il a quand même joué sur une tactique qu'il aurait pu adopter ce soir face à la France et qu'il a été obligé d'adapter face au Japon.
Oui, et d'ailleurs, l'équipe n'a pas bougé depuis. Je pense que ce soir, en plus, il y aura l'absence de Thomas Meunier aussi, joueur du Paris Saint-Germain. Donc, il faudra voir un petit peu, est-ce que Chadli va basculer sur le côté droit. Voilà, c'est le genre de choses qui se dessinent.
Moi, j'ai une autre question aussi par rapport à Thibaut Courtois. Est-ce que vous attendiez à ce niveau, l'attendiez à ce niveau ou pas? Parce qu'il a été très critiqué cette année à Chelsea, quand même.
Oui, mais c'est le meilleur Belge peut-être depuis le début de la compétition. On parle beaucoup d'Eden Hazard, de Romelu Lukaku, de Kevin De Bruyne, mais contre le Brésil, c'est Thibaut Courtois qui nous qualifie. Je veux dire, l'arrêt qu'il fait en toute fin de match, nous, il ne nous a pas étonnés parce que quand il était jeune joueur à Genk, avant de quitter la Belgique, il était à sa première année pro et il a offert le titre à Genk sur le même genre d'arrêt. Donc, nous, on l'attendait à ce niveau-là parce qu'on connaît la capacité de Thibaut Courtois. Après, avec tout le respect que j'ai pour Hugo Lloris, je pense que Courtois est un meilleur gardien qu'Hugo Lloris.
Alors, dans les rangs de chacune de ces deux équipes, évidemment, on parle des très bons joueurs et vous parlez de Courtois parce qu'on a Courtois face à Lloris. Mais il y a aussi, dans les attaquants, il y a un Kylian Mbappé. contre un Eden Hazard. Hein. Alors, je ne sais pas s'il a été pris à 37 km/h, lui, sur le terrain. Mais en tout cas, Kylian Mbappé, c'est l'anecdote du côté des Français. Il a été pris. Et justement, le numéro 10 des Bleus, eh bien, on peut dire que Kevin De Bruyne le connaît fort bien. Il l'a déjà jaugé et il en parle. Kevin De Bruyne.
Il est un star en France. Quand moi j'ai joué contre le Monaco, et à ce moment je ne le connais pas. Maintenant il joue depuis presque un an et demi et il joue pour un grand équipe. Maintenant il a joué beaucoup avec la France, beaucoup dans la Champions League. D'abord c'est un autre joueur. C'est un star pour le prochain 15 ans et il a fait un an incroyable. Je pense qu'il peut améliorer encore. Il peut être dangereux pour nous, mais on veut essayer pour qu'il ait un jeu un peu moins.
Kylian Mbappé, est-ce qu'on peut imaginer que ce soir, dans la tête du sélectionneur, il y a un plan anti-Kylian Mbappé?
Il y a eu un plan anti Neymar, anti Marcelo.
Ouais, comme nous, on avait un plan anti Messi.
Oui, oui. Après, Roberto Martinez nous a surpris parce qu'il s'est adapté un petit peu à l'adversaire face au Brésil et le résultat lui a donné raison. Après, je suis pas persuadé qu'il y ait un plan anti-Mbappé. Je pense que le plan anti-Mbappé ce soir, ce sera que la Belgique joue à son niveau et essaye de gagner le match avec ses armes.
Moi, je ne sais pas s'il y aura un plan anti-Mbappé. En tout cas, c'est sûr, on en a parlé il y a quelques minutes. S'il y a bien quelqu'un qui devrait barrer la route à Mbappé, c'est Courtois.
Oui, alors Mbappé qui ne s'était pas entraîné hier, mais Antoine me le confirmait juste avant l'émission, c'était, il avait quelques petites douleurs au dos, mais c'est apparemment sans conséquence. En tout cas, pour ceux qui observent Kylian Mbappé, parce que quand même c'est un peu la révélation du football français ces derniers mois, eh bien il y a quelqu'un qui a un œil averti sur ce joueur, parce que lui aussi il a disputé une Coupe du Monde, lui aussi, alors il n'avait pas 19 ans, mais il avait 21 ans à l'époque, il est devenu champion du monde, et il est du côté de la Belgique. Eh bien, c'est Thierry Henry. Et écoutons Titi, le buteur des Bleus, donc, évoquer Kylian Mbappé. C'était il y a quelques mois, et c'était au micro de nos confrères de Canal+. Il évoquait justement les talents de ce joueur, et lui, il ne parle pas que de vitesse.
J'aime pas comparer les joueurs. Faut que Mbappé devienne Mbappé. Et c'est tout. Mais qu'est-ce qu'il est bon! J'aime beaucoup et puis je l'ai rencontré. Il m'a donné l'impression d'avoir la tête sur les épaules et j'aime bien le regarder jouer parce qu'il pense. Il y a un truc qui me chatouille, qui me chagrine des fois, c'est que on parle souvent de joueurs. Il va vite, il est costaud, il saute haut. On parle jamais du cerveau d'un joueur et ça m'énerve. Que quand je le regarde dribbler, il pense, il t'amène là, il feinte, il revient, il pense quand il joue, il pense. Et ça pour moi c'est le plus important dans un joueur. Il utilise son cerveau. Oui, il va vite, oui, oui. Mais il pense, petit et malin. Et ça, pour moi, c'est le signe d'un mec qui peut aller très loin.
C'est aussi les vertus de Kylian Mbappé. C'est non seulement la vitesse, mais aussi cette vision qu'il a du jeu. On dirait qu'il anticipe toujours.
Ouais, il voit tout avant tout le monde, je pense. Et surtout, ce qui m'a impressionné, c'est que maintenant, il est mondialement connu. J'ai reçu aujourd'hui une photo de Rio sur un mur. C'est liberté, égalité, Mbappé. Bleu, blanc, rouge, incroyable, sur un mur de Rio.
Mbappé, hein, qu'on a comparé, alors si on l'a Thierry Henry non, mais on l'a comparé à
Pelé.
À la précocité de Pelé en 1958, et c'était la une de nos amis de France Football en disant qu'il serait peut-être l'héritier. On en parle aussi en Belgique de ce joueur.
Mais on parle pas que de lui.
Non, mais lui, parce que oui, finalement, en un an, il est devenu quelqu'un de très important, et même nous, en France, on a un peu peur d'être trop fascinés.
Mais c'est la figure de proue hein, de cette équipe, c'est le visage rayonnant de cette nouvelle équipe de France. Après, la qualité intrinsèque, la qualité footballistique du garçon, elle se discute même pas. Je parle même pas de ce qu'il a dans la tête, parce qu'il a montré qu'il était à la fois précoce, mais d'une maturité pour quelqu'un de son âge. C'est assez atypique, d'ailleurs, au sein du football mondial, de voir des joueurs aussi matures. C'est clair que la Belgique le connaît. Alors, nous... vu la proximité, on suit beaucoup le championnat de France.
Ben oui.
On a au Paris Saint-Germain un international qui évolue. Donc,
qui aurait su le bloquer ce soir
il a su bloquer Neymar, alors
oui.
Pourquoi pas Mbappé
oui. Sauf qu'il ne sera pas là.
Sauf qu'il ne sera pas là, on verra.
Alors justement, parlons des forces de cette équipe belgique pour terminer sur cette demi-finale. Eden Hazard, est-ce que c'est selon vous un peu votre Kylian Mbappé?
Oui, c'est en fait... Je vais aller plus loin que Kylian Mbappé. C'est notre Zinedine Zidane. On a beaucoup opposé ces dernières années De Bruyne et Hazard. Notre star, c'est Eden Hazard. Eden Hazard, quand il veut que son équipe gagne le match, il prend ses coéquipiers par la main et il leur montre la voie. C'est ce qu'il a fait contre le Brésil. C'est ce qu'il a fait contre la Tunisie. À l'Euro, il y a 2 ans, il l'avait fait contre la Hongrie. Après, contre le Pays de Galles, ça n'est pas passé. Mais je veux dire, c'est notre star. C'est le gars qui peut bousculer les équilibres, qui peut casser les lignes et qui peut nous faire gagner le match.
Comment vous expliquez qu'il soit aussi critiqué quand il est en club? Parce qu'il a quand même été hyper critiqué cette année.
Mais il a été critiqué parce que...
Il est irrégulier.
Il est irrégulier, c'est-à-dire que... L'entraîneur de Chelsea, Antonio Conte, moi je suis belgo-italien, donc je connais assez bien le championnat d'Italie. Eden Hazard a besoin de se sentir aimé, mais il a besoin de se sentir libre sur un terrain. Il est prêt à endosser les responsabilités, mais le travail tactique, et surtout le travail tactique imposé par son entraîneur italien, ne lui correspond pas. C'est quelqu'un qui a besoin de liberté offensive, qui doit moins défendre. Et par exemple, contre le Brésil, Roberto Martinez l'avait bien compris. Il lui a dit, écoute, voilà, tu as certaines tâches, mais pensons surtout à ce que l'on va faire une fois qu'on va récupérer le ballon. Et c'est là qu'on a fait mal au Brésil.
Qu'est-ce qu'il a apporté Thierry Henry au secteur offensif de votre sélection? Est-ce que vous avez vu, vous, une évolution, un changement?
Écoutez, on est en demi-finale de Coupe du Monde. Alors qu'il y a 2 ans, on se faisait éliminer en quart de finale de l'Euro en France par une équipe modeste, le Pays de Galles. Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Après, vous dire réellement, quelle est la part de Thierry Henry
et la part de Roberto Martinez
dans la réussite de la Belgique? Je ne sais pas, vous savez, Thierry Henry, nous, on a eu l'occasion de lui parler une seule fois en 2 ans. Je veux dire, la communication est verrouillée. Pour nous, c'est un ovni. Alors, certains joueurs nous disent, ouais, il nous apporte beaucoup offensivement. Les autres disent, même s'ils le disent en off, mais tiens, il parle beaucoup aux attaquants, il parle moins aux autres. On le respecte par sa carrière, mais vous dire ce qu'il amène concrètement, franchement, c'est un peu un point d'interrogation, mais clairement, il amène quelque chose.
En tout cas, après son doublé face à la Tunisie, Lukaku a parlé de Thierry Henry comme de quelqu'un qui lui donnait des conseils précieux.
Bien sûr.
Après, je ne sais pas quels conseils il lui donne, mais en tout cas, visiblement, entre les deux, il y a quand même quelque chose d'important.
Il y a une connexion. Tout à fait. Par exemple, il a souvent les mots justes, il trouve les mots justes. Il va voir un Lukaku à l'entraînement, il dit, tu sais, moi je ferais plutôt comme ça, essaye plutôt. Et ça marche.
Et Lukaku est quelqu'un qui s'adapte facilement, visiblement.
Mais il est à l'écoute. C'est quelqu'un qui est persuadé dans sa tête qu'il peut être le meilleur joueur du monde, le meilleur attaquant du monde, et qui se donne les moyens aussi pour y arriver. Il a une marge de progression qui est encore immense.
Alors voilà pour ce qui est de cette rencontre qui nous évidemment occupe beaucoup. Il y a une autre finale, demi-finale demain, et ça sera à Moscou. Et cette demi-finale, ça sera entre l'Angleterre et la Croatie. Et tout à l'heure, le sélectionneur des Anglais, Gareth Southgate, donnait sa conférence de presse d'avant-match. On va en parler avec Olivier Pron. Olivier, bonsoir.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Olivier, en quelques mots, comment les Anglais préparent ce match?
Ils le préparent comme une équipe qui a déjà réussi sa Coupe du Monde, tout simplement, donc sans pression. Ils ont conscience qu'ils vont affronter une équipe extrêmement technique, avec un milieu de terrain très impressionnant. On a évidemment beaucoup parlé de Modric, mais on a été assez détendu du côté de Gary Southgate, qui était venu avec Jordan Anderson. Encore une fois, les Anglais, ils sont en demi-finale pour la première fois depuis 28 ans. L'essentiel des joueurs présents dans cette équipe n'était même pas né. 17 des 23 joueurs emmenés par Gary Southgate ici en Russie n'étaient pas nés en 1990. Alors ils écrivent leur propre histoire, ils ont conscience qu'ils ont réussi déjà une chose, et bien c'est de redonner la passion à leur peuple. Alors que vous entendez derrière moi, pile à ce moment-là, bien sûr, une annonce dans le centre de presse du Stade Louzniki. C'est toujours un plaisir ici en Russie d'avoir du son derrière soi quand on est en direct.
Merci beaucoup Olivier pour ce petit regard sur ce match demain si important, et évidemment on viendra vers vous demain et on saura qui sera face à l'Angleterre ou à la Croatie. Merci beaucoup Olivier, en direct du stade de Loujniki. Merci. Je voudrais me tourner vers nos invités russes pour leur demander. Ksenia, une question sur Moscou et le football. Est-ce que cette Coupe du Monde intéresse beaucoup, selon vous, les moscovites et a changé quelque chose dans la ville ?
Ah oui, tout à fait. Je pense que ça a complètement changé la ville. Alors moi, j'ai décidé d'être volontaire en 2010 parce que j'étais à l'époque à Paris. Et c'est là, en fait, qu'on a gagné cette chance d'accueillir la Coupe du Monde. Et donc, moi, je me suis préparée à ce championnat. Alors que quand mes collègues, par exemple, qu'ils ont appris que je voulais être bénévole, ils étaient vraiment étonnés. Ils comprenaient pas pourquoi. Et en fait, dès les premiers jours, je pense que c'est surtout après notre victoire contre 5-0, c'était impressionnant. Ouais. Tout le monde s'est mis au foot et en fait, je trouve que l'ambiance est géniale. On m'a souvent dit en Europe que la Russie c'est pas vraiment un pays de foot, alors que là, je trouve que en fait, on prouve le contraire.
Il y a une très belle tradition de foot en tout cas dans le pays.
Plutôt l'URSS. Je pense que la dernière fois qu'on était vraiment tellement content de notre équipe, c'était en 2008. C'était l'Euro et c'était impressionnant. Mm-hmm. Et là, c'est encore mieux en fait cette année. Et moi personnellement, ça me rappelle un peu les fêtes de Bayonne, les rues de Moscou en ce moment. Mais voilà, les fêtes de Bayonne, foot.
Avec beaucoup de monde et avec beaucoup d'ambiance, c'est ça.
Oui, ambiance géniale.
Maria. Vous êtes passionnée aussi pour la Sbornaïa et la compétition ?
Ah oui, je suis passionnée. En fait, la première fois quand j'ai regardé le foot, c'était en 1998 et j'ai mis sur la France et tout le monde misait sur le Brésil. Et après ce championnat fameux, j'ai commencé à le regarder franchement. En ce qui concerne mes collègues, des amis, ils sont tous passionnés. Et même quand il y a le foot, les rues sont presque vides. Et ce que j'aime bien sur le foot et sur FIFA, c'est que vraiment, c'est dans l'ouverture d'esprit pour tout le monde, pour les gens qui viennent et également, y compris pour les Russes. C'est dans l'échange culturel et même on découvre d'autres villes. Par exemple, j'étais à Saransk, à Sochi, voilà, et c'était vraiment pour moi en bonne
occasion. Vous êtes allé voir des matchs ?
Oui. Ouais.
Avec l'équipe de Russie ?
Pour Saran, c'était pas Russie, mais oui.
Qu'est-ce que c'était comme match ?
C'était Danemark et Pérou. Mm-hmm. Mais c'était vraiment passionnant.
On dit que c'était impressionnant, justement, notamment les supporters sud-américains et notamment péruviens à Saran, qu'ils avaient un peu envahi la ville, c'est ça ?
Oui, ils étaient 20 000. Il y avait plus que 35 000 ou quelque chose comme ça.
Ah oui, plus encore.
C'était impressionnant. Ouais. C'était,
ouais. Vous avez communiqué avec eux ? Vous avez parlé avec eux ou...
J'étais avec beaucoup d'amis et oui, on a communiqué un petit peu avec les supporters.
Ouais. Et vous, Vladimir, comment vous la vivez alors cette Coupe du Monde en tant que volontaire, hein, vous êtes dans les stades. Quand on est volontaire, on voit les matchs.
En fait, on a différents rôles. Donc moi, je fais partie de cérémonie. Et donc, c'est moi qui est membre de l'équipe qui tient les grands drapeaux. Avant deux matchs.
D'accord.
Donc c'est une cérémonie pré-match.
Mm-hmm. Oui, c'est ce qu'on voit hein, pendant les hymnes, ces drapeaux sur les pelouses.
Mm-hmm. Le grand drapeau de COP, en fait.
Oui.
On n'a pas de possibilité de voir, de regarder le match, puisqu'il y a beaucoup de choses à faire comme les volontaires. Mais par contre, on a aussi les centres volontaires au niveau des stades. Et il y a aussi les télés où on peut se mettre et on peut voir et regarder de ce qui se passe sur les...
Sur les pelouses.
Oui.
Vous avez vu beaucoup de matchs alors ?
Oui.
Oui.
Pas tous les matchs, mais...
Quel est celui qui a été le plus intéressant ou spectaculaire ?
Russie-Espagne, peut-être.
Avec l'élimination de l'Espagne ?
Oui, bien sûr.
Avec la dramaturgie des tirs au but.
C'était vraiment une surprise pour tout le monde, pour moi surtout. Par contre, on a parlé un petit peu de différents facteurs qui font influence sur le résultat. On a touché aussi les différents, savoir-faire parmi les footballistes. Mais il ne faut pas surtout oublier de facteurs de météo et facteurs géographiques. Par exemple, on est combien 8 ou 9 je me rappelle plus. Par contre, on est à Moscou, demain on est à Saint-Pétersbourg, après Sochi, ça peut être plus 40 ou à peu près
ou 10 degrés ou 12 degrés le soir, oui.
Il pleut. Et
ça a influencé.
Tout à fait.
C'est vrai que il y a 12 villes en Russie qui ont été villes hautes. Oui, hein, c'était 12 au total. Et je me souviens de nos confrères quand ils allaient à Ekaterinbourg, où effectivement il y avait des différences de température. Vous vous êtes promené vous aussi un peu, Pascal?
Moi, je suis resté sur le Grand Moscou.
Ouais.
Donc il y a déjà assez à visiter sur le Grand Moscou. Mais c'est vrai qu'au niveau des émotions, moi, j'étais au stade Loujniki pour Russie-Espagne. Moi, j'ai vécu un moment mais exceptionnel. Et des matchs, j'en ai vu aux quatre coins du monde. Mais le match, la dramaturgie, la ferveur du public au moment des hymnes nationaux, au moment de l'arrêt décisif d'Akinfeyev. Et alors, la fête qui a suivi, c'est exceptionnel. Les Russes, les Moscovites sont devenus sud-américains, en fait. Bon, l'espace d'une nuit, c'était exceptionnel.
Vous confirmez, vous les Russes?
Oui, bien sûr.
Ouais. Vous avez fait la fête ce jour-là, vous avez.
Oh oui.
Vous avez commémoré. Pour terminer, on va écouter, vous êtes belgo-italien, vous savez que le Paris Saint-Germain vient de recruter. C'est évidemment le Paris Saint-Germain, la vitrine un peu du football français pour ce qui est des grandes stars. Ils viennent de recruter une star qui s'appelle Gigi Buffon, le gardien de but. Et justement, Gigi Buffon, il s'est présenté hier aux Français. Et écoutez, parce qu'il a été extrêmement diplomate, le gardien de la squadra azzurra.
Et invece credo che la Francia alla fine arriverà in fondo perché.
Je pense que l'on avait oublié la France au moment de faire les pronostics. Je sens qu'elle va aller au bout. Elle a un sélectionneur extraordinaire que j'ai eu l'occasion de côtoyer comme entraîneur à la Juventus de Turin. Et surtout la France, c'est une équipe qui possède une classe, un talent incroyable. C'est ce qui en fait la candidate la plus sérieuse au titre mondial. Au début de la compétition, j'aurais plutôt dit le Brésil. Mais maintenant, c'est sûr qu'avec tous ses talents et ses qualités, c'est la France que je vois championne du monde.
Ils ont recruté un gardien et un diplomate au Paris Saint-Germain.
Oui, et ils ont recruté un deuxième entraîneur aussi.
Ouais.
Parce que c'est quelqu'un qui a une aura, qui va savoir, entre guillemets, apprivoiser la partie brésilienne du vestiaire. Et le but, c'est qu'il gagne la Ligue des Champions et qu'il fasse de Neymar le meilleur joueur de la planète.
Farid, je vous laisse la primeur d'une nouvelle qui vient d'être officialisée et qui va intéresser nos auditeurs. Je ne sais pas s'il va leur faire plaisir. Ça va leur faire plaisir.
Je ne sais pas si ça va leur faire plaisir, mais Cristiano Ronaldo n'est plus au Real, mais à la Juve. Ça y est,
voilà.
C'est fait.
C'est officiel. Il ira jouer du côté de l'Italie et il aura un maillot non plus blanc, mais blanc et noir chez la vieille dame. C'est quand même un sacré transfert, même s'il y avait eu beaucoup d'indices autour de cela.
Et pour terminer, c'est un Colombien qui a gagné l'étape aujourd'hui, et pas un Belge. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire.
Français,
c'est un Colombien.
Les Belges restent en jaune.
Ah ben vous savez,
l'étape du Tour de France, évidemment.
Du côté de Saint-Pétersbourg, il y a un chat. Un chat qui s'appelle Akil le chat et qui est un peu l'animal chargé de prédire. On se souvient de Paul le Poulpe à l'époque. Et là, Akil a prédit la victoire de la Belgique. J'ai mais paraît qu'il se trompe souvent.
Écoutez, on se rassure comme on peut.
Eh ben, on verra. Et c'est sur ça qu'on se quitte. Merci beaucoup d'avoir participé à ce Radio Foot International. Merci Xenia, merci Maria et merci Vladimir de nous avoir apporté votre témoignage et votre regard russe sur cette compétition.
Spasiba Annie.
Spasiba à tous. Et puis merci évidemment à toute l'équipe de Radio Foot qui était là. Et on vous donne rendez-vous tout à l'heure à 23h10 heure de Paris. Et surtout à 21h la retransmission.